Un micro dans la ville sur Marmite FM 88.4. Nouradine Agne.
Ça m'éveille la chasse là. Yes, Aman. Yes, I. Le morceau là m'éveille tellement que je suis tellement.
La semaine des écrivains persécutés de 50 ans en Yvelines, ça s'est passé du 9 au 15 novembre dernier. Un événement organisé par les écritures contemporaines de la commanderie de 50 ans en Yvelines. À cette occasion, des élèves de collège et lycée Saint-Quentinois ont rencontré des écrivains, des poètes ou des artistes en exil. Des rencontres qui ont permis d'en savoir plus sur les raisons qui ont poussé ces écrivains, ces artistes à quitter leur pays. Parmi les intervenants de cette semaine, des écrivains, James Fleurissin, qui est né en 1980 à Port-au-Prince, à Haïti. James Fleurissin est comédien, poète et diseur d'histoire haïtien. Il a construit sa carrière en Haïti, entrepris une tournée en Afrique en 2015 avec la pièce La grammaire du mensonge de Jean-Paul Toutou. Il tient le rôle maître dans la pièce Monsieur Toussaint, d'après Édouard Glissant, grand écrivain martiniquais. Une pièce qui a été portée au cinéma sous le titre de Ouverture, film récompensé lors de la 70e édition de la Berlinale. Et en raison de ses engagements politiques, il a quitté Haïti pour la France en 2019. James Fleurissin nous situe le contexte dans lequel il s'est lancé, notamment dans la poésie et le théâtre en Haïti. On écoute James Fleurissin.
J'ai connu la grande dictature des Duvaliers en Haïti. C'est une dictature durant laquelle on n'avait pas le droit de, d'après moi, on n'avait pas le droit de parler à voix haute. On n'avait pas le droit de dire qu'on a mal. On n'avait pas le droit d'aller dans des, de se regrouper dans certains endroits. Parce que quand ça dépasse 10, 11, 12, 13 personnes, tout de suite, il y a des soupçons de mutinerie, des soupçons de donc du coup ça devient dur. C'était sur et à l'époque il y avait le père qui était un dictateur et à sa mort son fils qui n'avait même pas 18 ans était déjà à sa place, donc on l'avait mis à la place du père. Donc du coup en Haïti pour être président, tout ça, on devrait avoir au moins 30 ans. Donc, mais lui, avant même sur son lit de mort, il avait dit, bon, son fils a 17 ans, étant donné que lui, il est le tout puissant du pays, il a dit, bon, avec mon armée, on a convenu de mettre mon fils à ma mort au pouvoir. Donc Jean-Claude Duvalier et le fils de François Duvalier, il a perpétué ce règne-là. Ils ont passé en tout environ 56 ans au pouvoir. Et c'était des années macabres, des années vraiment dures, et où beaucoup d'écrivains haïtiens ont quitté le pays. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à perdre vraiment nos ressources intellectuelles, nos écrivains, de grands écrivains. Et je viens de vous parler de ça, c'est pour vous dire quelques mots sur mon premier pas au niveau de la poésie. C'est pour vous parler d'un auteur majeur haïtien, c'est Franck Étienne. Franck Étienne, j'ai rencontré la poésie dans cette poésie-là, cette parole-là, cette parole révoltante-là, à travers les lignes de Franck Étienne. Ça date de plus de 20 ans. C'était dans une bibliothèque. Lorsque j'ai rencontré Franck Étienne, dans moins de 6 mois, j'ai lu plus que 30 à 40 ouvrages de Franck Étienne. J'ai passé des jours, des nuits à lire Franck Étienne. C'est un poète subversif, c'est un artiste multidimensionnel haïtien. Si vous allez sur le net, vous cherchez Franck Étienne. Au fait, son nom, c'est Basilique Dantor, Franck Étienne d'Argent. Son nom est vraiment long, mais son nom de plume, c'est Franck Étienne. Il est peintre, il est homme de théâtre, il fait du cinéma, il est poète également, il est dramaturge également. Donc, c'est un artiste pluridimensionnel. Ce que j'aime chez lui, qui m'a amené vers cette poésie-là, c'est ce mouvement-là qu'il a créé. Et les styles-là, ça vous tient. Il est dans plusieurs styles lorsqu'il écrit. Donc du coup, au départ, j'avais du mal à cerner Franck Étienne. Parce qu'à l'époque, j'étais trop jeune. J'avais environ 16-17 ans.
16-17 ans.
Mais j'ai grandi dans un environnement où on était vraiment proche des livres, du théâtre. Parce que, vous savez, faire du théâtre, c'est aussi lier un rapport intime avec les mots, avec les livres. C'est un pont, entre la réalité, entre les livres, entre la scène, entre le public. Donc du coup, avec le théâtre, il y avait des bibliothèques dans la zone et le groupe que j'avais à l'époque, c'était Cardinal Productions. On avait des rendez-vous à cette bibliothèque-là, c'est la Bibliothèque Sans Frontières. Donc du coup, lorsque je vois les livres de Franck Étienne, je commence à lire ce premier texte de Franck Étienne, et parce que lui, c'était un subversif. Il avait écrit ce texte-là sur le règne des Duvaliers. Mais je crois que c'est pays perdu, pays foutu, pays enfoiré, pays fourdoyé, pays laminé, pays broyé, pays enfouraillé, pays en perpétuelle mardigature, pays piégé, coincé sous une écharpe barbelée dans un brancard d'agonie, pays grossesse nerveuse en mal d'orage. Donc, c'est pour cela que, après sa première pièce, qui était Pelle en tête, ça raconte l'histoire de deux Haïtiens qui vivaient dans un basement aux États-Unis. Il a joué ça en Haïti. Et il pouvait pas, même la salle, il ne pouvait pas laisser. Il ne pouvait pas quitter la salle parce que là, les sbires, et à l'époque, on les appelait les tontons macoutes. Oui, les tontons macoutes, c'était des hommes de main du pouvoir. Ils étaient au service du pouvoir en place. Ils faisaient tout pour le pouvoir, pour les Duvaliers. Ils faisaient tout. Donc, du coup, Franck Étienne ne pouvait pas quitter la salle. Avec Roland Orfeil, il ne pouvait pas laisser la salle. Donc du coup, lorsque j'ai rencontré cet ouvrage Pelle en tête, je me suis dit waouh, mais la littérature, les mots peuvent être un espace de respiration. Tisser un pont entre moi et cette parole-là. Donc du coup, j'ai lu Franck Étienne. J'ai lu Franck Étienne pendant moins de 4 mois. Il a écrit plus de 30 ouvrages. Et puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Parce que je peux pas découvrir ce grand plaisir-là et tenir ça à moi tout seul. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais commencer par lire Franck Étienne dans des espaces publics. Lire Franck Étienne dans des espaces publics, et j'ai lu Fou qui fourra, le texte de Franck Étienne, et ça a eu des échos. ça a eu des échos, on m'a invité dans des endroits, tout ça, mais c'était pas toujours facile, parce que lire Franck Etienne, c'était risqué, mais étant donné que moi, j'ai grandi à l'avenue Poupla, c'était une zone rouge, une zone à haut risque, parce que c'était vraiment chaud. Donc, j'ai grandi là, mes amis, tout ça, on se mettait ensemble là, avec la troupe Cardinal Productions. Et on a rencontré des amis qui sont dans la même perspective que nous. Et puis, on est allé là, on a fait la mise en scène de Fouki Foura. On a joué Fouki Foura dans des endroits, même après, il y avait des menaces au téléphone, il y avait des menaces contre des proches, tout ça. On s'est dit, on ne doit pas laisser tomber, et parce que tout le monde ne peut pas accepter. Tout le monde ne peut pas accepter ce qui se passe. Tout le monde, nous ne sommes pas tous pareils, on ne peut pas accepter tout. Donc du coup, on s'est dit, on doit lever la voix. Si c'est la poésie qui nous donne cette opportunité-là, donc on doit aller jusqu'au bout, on doit connaître des auteurs qui sont dans cette même veine. Donc on a, à partir de là, j'ai rencontré Franck Etienne, Georges Castra, René Philoctète et d'autres auteurs haïtiens. Ce sont des bon, Franck Etienne, on a dit que Daniel Aferia, qui c'est un écrivain, il fait partie de l'Académie française, il est d'origine haïtienne. Il a dit que Franck Etienne, c'est l'auteur haïtien le plus nobélisable. Tellement Franck Etienne, c'est quelqu'un qui a un souffle vraiment intense, et qu'il écrit vraiment bien. Donc du coup, avec Franck Etienne, c'était le point de départ. C'était la révélation. Donc voilà.
Après s'être essayé à la poésie et au théâtre, James Fleurissant se dirige vers l'humour, une discipline très peu présente en Haïti. Il espère ainsi faire passer son message et sa critique du système politique et du pouvoir en place en usant de la dérision.
Trop accepté parce qu'on disait que c'était subversif. Parce qu'à l'émission, bon, j'avais un personnage, c'était Rikiki. Et tout le monde, on connaît par cœur la présentation de Rikiki.
Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue à tous et à tous. Nous sommes contents de recevoir tous et tous à ce show de Dieu, à tous et non à toutes. Vous qui avez l'habitude de regarder la radio ou d'écouter la télévision, vous savez déjà pertinemment très bien que en ce qui me concerne, pour ma part, moi-même personnellement, le nom c'est Rick et le prénom c'est Ricky. Le tout ensemble donne Rikiki.
Donc ça, c'était ainsi. Et lorsqu'on a un personnage pareil, on dit,
est-ce que vous savez pourquoi tout le monde veut être président? Eh bien, c'est simple, parce que c'est un vol direct, il n'y a pas d'escale.
Quand on se dit, rares sont les présidents haïtiens qui, après un mandat de 5 ans, ne méritent pas un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener. Donc, lorsqu'on se pose ces questions-là, lorsqu'on questionne ces choses-là, donc du coup, on devient subversif, on devient un peu gênant pour le pouvoir, surtout si c'est un pouvoir totalitaire, si c'est un pouvoir un peu comme ce qu'on vit actuellement en Haïti, là, depuis 10 ans avec PHTK. Ce qui m'a amené ici en France aussi.
La situation actuelle aussi.
Ouais. Mais pour vous parler du tremblement de terre de janvier, je travaillais à l'époque dans une bibliothèque, c'était la bibliothèque Maison de la Grandance. Et on était trois, cette troupe de théâtre. Et puis après, on s'est dit, étant donné qu'on est dans la poésie, qu'on a des ouvrages sur l'humour, on a lu des ouvrages, tout ça, et puis on s'est dit, bon, pourquoi ne pas travailler des vannes, des gags, des blagues, tout ça. Et puis on a travaillé tout ça ensemble, et puis on a mis sur pied une émission, c'était Apprenti, Apprentu, c'était une émission à caractère humoristique, ça se passait à la télé, et puis 12 janvier, on était à la bibliothèque, on préparait l'émission. On était environ trois, mais il y avait des adhérents qui venaient faire des lectures, faire des prêts, tout ça. Et puis, il y avait aussi un centre culturel. Et aux environs de 3 heures, on répétait tout ça. Moi, entre 3 heures moins 10 et 4 heures, j'étais allé acheter quelque chose parce qu'on avait soif. Et puis, arrivé là où je devrais aller, où je devrais acheter la chose, il y avait des personnes qui habitaient. C'était une grande maison de 3 étages, tout ça, assez haute. Et puis, j'ai l'impression que j'étais sur... Je ne peux pas dire, décrire cette sensation, mais j'ai l'impression que j'étais sur un balançoire. Ça bouge comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose sous mes pieds qui bougeait? J'avais du mal à cerner ce qui se passait sous mes pieds. Et puis, tout de suite, je vois s'effondrer cette maison-là que je devrais acheter la chose. Et d'un coup, la zone était... Il y avait une poussière opaque qui envahissait la zone. Lorsque j'ai vu cette poussière opaque-là, je ne voyais pas où j'en étais. La rue était... J'étais d'un seul pas, je me retrouvais au beau milieu de la rue. Il y avait des voitures qui viennent. Qui venaient ici. Et moi, j'étais au milieu. Mais j'entends les voitures se cogner. Ça n'arrivait pas vers moi. J'étais au milieu. Les chauffeurs avaient peur. Donc du coup, j'étais au carrefour, quoi, en plein milieu. Là, je tremblais. Tout le monde, j'entendais des bruits. Oh, au secours. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que j'étais déconnecté de la réalité à ce moment précis. J'étais déconnecté. Je me suis aperçu de ça. C'est 3 jours plus tard. Parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a quelque chose là qui se passe. Il y a quelque chose... Comme si, psychologiquement, le choc psychologique, le choc émotionnel, le choc, tout ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des cris, tout ça. Et la bibliothèque dans laquelle répétaient mes amis, je faisais mon mieux pour y aller, parce que même lorsque les voitures, là, j'ai l'impression que ça se cogne, là, ça, entre eux. Pendant que j'approche de la bibliothèque, la bibliothèque était en train de s'effondrer.
James Fleurissant nous raconte le déclic qui l'a poussé à quitter Haïti et nous propose la lecture d'un texte engagé. James Fleurissant.
Je vais vous dire que j'ai travaillé après 2010, j'ai mis sur pied le réseau des journalistes culturels haïtiens. Donc ces amis-là, ils étaient là avec moi dès le départ. Donc il y a un d'entre eux qui est mort le jour de mon anniversaire. C'était pour moi un signe. Parce que là, on était dans tous les médias, on préparait des choses. Il y a un autre qui très récemment, qu'on a quelques jours avant mon arrivée en France, qui était assassiné. Et puis après, je reçois des appels, je reçois des messages, tout ça. Et certaines fois, je suis allé me réfugier à 2 reprises, je suis allé me réfugier à la campagne. J'ai passé des semaines et après, je suis revenu. Et après, je vais pas chez moi, je vais chez un ami. J'ai passé des jours, on ne m'entend pas, personne ne m'entend. Je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur... Donc, c'est le silence total. Mais je suis toujours en train de travailler, d'écrire. Il y a des endroits que je ne peux pas lire des textes. Lorsqu'on invite, par exemple, un ami, il m'appelle, il m'a dit, James, j'ai un texte là. Et je veux que ça a une couleur un peu militante, une couleur révolutionnaire. Voilà. Donc, je révise le texte. J'ai dit, ah, si c'était moi, j'aurais écrit ça. J'aurais essayé telle chose. Et puis, l'ami, je ne sais pas. Lorsque je disais, dans ma démarche de dire poétique, et il y a certains qui aiment mon souffle. Par exemple, lorsque je dis un texte, ils disent que j'ai un souffle de 10 heures, tout ça. Donc, je travaille aussi avec des gens. En d'autres termes, je mets les textes dans leur bouche. J'apprends aux gens à cette diction dynamique, la façon d'articuler le texte, la façon de lier le geste à la parole, la façon de trouver la couleur du texte. Parce que pour dire un texte, il faut d'abord voir la couleur de ce texte. Il y a les ponctuations, mais aussi il y a les ponctuations psychologiques par rapport à ces endroits-là où vous devez vous arrêter. Il y a les ponctuations, il y a la parole du texte, il y a les mots du texte, il y a aussi le silence qui est certaines fois plus important que les mots. Donc il y a, et c'est à travers ce silence-là qu'on va découvrir le diseur. Le diseur, il a une façon de rester dans le texte, même étant silencieux. D'ailleurs, le silence du diseur est beaucoup plus, certaines fois, plus parlant, plus expressif, certaines fois, que ça. Vous voyez, donc il a une façon d'habiter. Tambour Soleil, c'est René Philoctet qui il a créé le mouvement spiraliste que je vous disais tout à l'heure avec Franck Etienne. Le texte va comme ça. Mais il faut vous dire qu'à chaque fois que je dois dire un texte, il y a un autre texte, un petit texte. C'est comme un rituel de passage. Je le mets toujours devant parce que ça parle de la poésie. Ça dit comme ça. Poésie pour la survie dans cette attente charbonneuse. Poésie pour ne pas faillir ni défaillir. Poésie pour ne pas mourir sans retrouver le chemin des étoiles. L'été s'achève. De quelle couleur sera donc la saison nouvelle, sinon d'espoir ? L'été s'achève et ma mémoire s'en souvient. Soleil, oh, soleil, oh, de quel côté tu es ? Trois fois nous avons frappé à ta porte. De quel côté tu es ? Soleil, oh, de quel côté tu es ? Trois fois nous avons frappé à ta porte. De quel côté tu es ? Le soleil est parti, les amis. C'est là qu'il est allé. Dans l'étang Grand Feuille, il est allé faire l'amour et son chapeau est resté dans l'Artibonite. Non, l'Artibonite, non, l'Artibonite, non, l'Artibonite. Non, l'Artibonite. Ô belle femme, que l'œuvre Madeleine l'enfleur coudait. Voyez les anges sur leurs nattes, nous mourons tous. La terre est aveugle, la terre bat les pattes comme un vieux coq gaguère. La terre ne dit pas bonjour, maîtresse. La terre ne dit pas bonjour, maîtresse. Il est couché chez sa maîtresse. C'est là qu'il est couché. Le soleil a perdu la parole. Le soleil est tombé en enfance. Le soleil bat les pattes comme un vieux coq gaguère. Le soleil ne dit pas bonjour, maîtresse. Le soleil ne dit pas bonjour, les amis. Le soleil ne dit pas bonjour. Le soleil est tombé en enfance. C'est là qu'il est couché. Il est couché chez sa maîtresse. Les amis, levons les bras vers les grands docos. Le soleil a perdu la parole. Le soleil ne dit pas bonjour. Le soleil bat les pattes comme un vieux coq gaguère. Les amis, ailez les seins. Ailez les voisinages. Le soleil a perdu la parole. Le soleil ne dit pas bonjour. Le soleil est tombé en enfance. Soleil, oh, de quel côté tu es ? Soleil, oh, de quel côté tu es ? Soleil, oh, de quel côté tu es ? 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 De quel côté tu es, soleil, oh ? Soleil, oh, de quel côté tu es ? Nous avons frappé à la porte du soleil. Vieillard qui coucha le premier avec la terre, il avait prise vierge nue. Qui vécut au hubo eu des enfantements, cataclysme d'astres déchus, mort millénaire de mastodontes. Nous avons frappé à la porte du soleil, qui connut l'homme au bord de l'instinct, forgeant ses sens à la mesure de la vie. Qui vit des golfes triomphants bercés des mers immobiles et des fleuves fumants, s'entrechoquer en geysers de sémaphores. Or, quand nous avons frappé à la porte du soleil, les chiens de garde avaient enlevé la clé des cadenas aux mille secrets, et les tambours du soleil avaient ouvert la marche nuptiale des étoiles en notre honneur. Mes amis, chantons chanson délivrance. Chantons chanson délivrance. Chantons! Le soleil est sur la plaine. Chantons chanson délivrance. Le soleil est revenu. Et puis après on chante. La reine soleil levée, oh, bon Dieu voyez l'aller. La reine soleil levée, oh, bon Dieu voyez l'aller. Oui. Tout petit moun y a crié, oui. Bon Dieu voyez l'aller. La reine soleil levée, oh, bon Dieu voyez l'aller. Ça c'est une chanson que chantent les enfants. Au fait, à chaque fois qu'on dit un texte, après on l'accompagne d'une petite chanson.
Voilà donc James Fleurissant qui vit désormais en France. Il anime notamment l'émission Le Verbe Enflammé sur la radio Haïti Inter, tout en travaillant à un recueil collectif en hommage à l'héroïne haïtienne Cécile Fatiman pour une anthologie de 101 poèmes vaudou. Il est membre de l'atelier des artistes en exil. Voilà, vous pourrez retrouver les autres artistes, écrivains et poètes et écrivains empêchés à partir de la semaine prochaine. Donc, petit rendez-vous sur notre podcast.
C'était Un micro dans la ville, présenté par Nouradine.